Alors, dans ce film, avec une héroïne très forte, pardon, on retombe sur la question de l'importance du point de vue subjectif qui arrive à plusieurs moments du film. C'est d'abord au début du film, une voix. Donc, on est avec elle, puisqu'on entend sa voix. Et qu'on, là aussi, vous vous rappelez, je vous ai donné des plans où on voit ce qu'elle voit. C'est là quand elle se cache pour apprendre le Tara, le bâton de pouvoir, ou là quand elle est sur la baleine, puisque le titre original, qui n'est pas la baleine tatouée comme ça a été traduit en français, c'est The Whale Rider. Et en anglais, ça joue sur l'indifférenciation sexuée de l'utilisation du verbe. To ride, c'est chevaucher. Donc, the whale rider, en anglais, on ne sait pas le sexe de celui qui chevauche la baleine. Et c'est pour ça que c'est un enjeu de titre qui joue sur ces questions-là. Et je peux vous dire que l'audace féministe, elle est beaucoup plus du côté de Witty Maera, notamment avec la grand-mère, que du côté de Nikki Caro. Alors, si vous l'avez trouvé féministe, le film, dites-vous que c'est 40 fois plus féministe le roman. C'est tout vous dire. Alors, l'importance du point de vue subjectif de ce personnage. C'est évidemment sa place à elle, alors qu'elle est toute frêle, qui commence par la voix, mais pas n'importe quelle voix, puisque c'est une voix qui dit nous, donc qui pense pour la communauté, qui pense a posteriori et qui parle depuis le futur. C'est assez rare au cinéma, mais c'est aussi cette idée d'une élue. C'est-à-dire que c'est vraiment un film qui joue un peu à l'américaine sur la question de l'élection. C'est un film qui travaille à la fois sur le collectif, mais qui travaille aussi sur cette idée d'individualité. Et donc la voix du film au début, dans cette séquence dramatique, il y a eu débat avec les collègues pour savoir s'il fallait parler ou pas du fait qu'il y aurait la mort d'une mère au début. Moi, je pense que ça fait partie des enjeux émotionnels du film. Donc je trouverais ça dommage de leur raconter à quoi va faire face le personnage en naissant. On peut en débattre après, si vous voulez. Tout ça pour vous dire que dans le début dramatique, on a une voix qui est vraiment, à la fin du film, il y a un mot qui m'intéresse, où le dialogue est une forme de déni et il dit, oui, elle n'est pas une prophète, au sens, elle ne peut pas savoir ce que va devenir son peuple, ce qui est le principe de tout art, on ne peut pas savoir le futur des Maoris. Mais je pense que le film joue sur l'idée que c'est une prophète. C'est-à-dire vraiment l'idée qu'elle est élue, qu'elle est différente des autres et qu'elle va amener un savoir qui est le savoir de la communauté. Donc il y a vraiment une tradition quasi religieuse dans le film qui est tout à fait bien trouvée par rapport à la question du livre, parce que c'est un livre très communautaire, beaucoup plus, encore plus que le film, mais qui se pose aussi cette question de comment la voix d'une communauté peut être portée. Il le sait bien parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Witty Maera, je l'ai vendu comme la saga à partir des années 70 dans un effort collectif, mais en fait il est devenu le monument national parce que par l'importance de sa littérature, c'est vraiment la première voix des Maoris inscrite en anglais. Une comparaison, ça serait la littérature dite beurre à partir de la fin des années 1970 et 1980 en France. Donc une voix dans la langue qui est la langue nationale, mais qui apporte une expérience qui n'est pas l'expérience qui existait déjà en littérature. Donc un point de vue de prophète, un point de vue très fort. Et pour moi, il y a un point commun à faire avec un film d'animation qu'en général tous les jeunes publics ont vu, c'est Kirikou. Vous vous rappelez peut-être que Kirikou, il s'enfante tout seul, donc il arrive. Il veut sortir de sa maman, il parle à sa maman alors qu'il est dans le ventre. Donc on a quand même un personnage unique de l'histoire de l'animation qui a une détermination, l'idée d'une élection du personnage enfantin qui est beaucoup plus mature que le reste de la communauté. Donc on a ce personnage qui s'enfante lui-même, ça c'est l'expression de chez Kirikou. Et pour moi, on a quelque chose de là dans Paille. On a vraiment l'ordre du prophète, sauf que là, c'est là. Prophète de sa communauté. Donc on arrive avec ce point de vue subjectif dans le film. Et c'est cette voix qui nous accompagne pour faire face au drame qu'on voit à l'image. Très important, et il insiste beaucoup dans le livre, c'est la mère qui donne le nom sur la question de la filiation, c'est très important. C'est un film bavard pour le coup, c'est bien que vous l'ayez à la fin, et c'est un film où les mots sont d'importance. Et il y a quelque chose de la filiation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on prend ou pas dans la filiation, qu'est-ce qu'on prend et qu'on rejette, qu'est-ce qu'elle va prendre de son grand-père, qu'est-ce qu'elle ne doit pas prendre du grand-père. Mais c'est intéressant que ça soit la mère qui l'ait nommée, et la mère l'a nommée, comme c'est dit, je le répète, je le souligne, dans le film, c'est la voix en plus avec ce très gros plan de bouche, c'est la mère qui dit Paikea, et Paikea, vous aurez compris que c'est le nom de l'ancêtre. Donc elle donne à sa fille, avant de mourir, le nom de l'ancêtre. Est-ce qu'elle appelle l'ancêtre ou elle donne le nom à sa fille? L'ambiguïté du film ne le précise pas, mais le fait est que c'est le mot de la mère qui va devenir le nom, qui est pourtant masculin, de la petite fille. Et voilà. Donc tourner autour, faire sa place dans le chariot, c'est le principe de Calamity, tourner autour du lieu collectif, du lieu de pouvoir, du lieu symbolique du Maera, c'est l'enjeu de paille. Alors je reviendrai sur les propos sexistes du grand-père, parce qu'il y en a beaucoup, avec « elle ne me sert à rien », donc comme un objet, « tenez-vous à votre queue ». Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une des qualités du cinéma de Nicky Caro, parce que c'est le troisième film qu'elle fait, et à chaque fois, elle s'attaque à des hommes sexistes. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'elle veut des personnages très sexistes, et en même temps, elle les défend. Et c'est dans la réalité du livre, c'est-à-dire que Paille défend tout le temps son grand-père, quoi qu'il arrive, mais sauf que dans le livre, il y a l'ironie, en fait, qui attaque le personnage, alors que dans le film, Nicky Caro protège beaucoup le grand-père, finalement. Alors, je voulais vous remontrer cet extrait, toujours dans cette idée de la subjectivité, comment on peut être entendu par les autres. C'est la question de cette voix prophétique qui... est-ce qu'elle dit l'avenir ou est-ce qu'elle connaît l'avenir, hein, cette voix un peu étrange du début du film. Mais c'est d'abord emprunter, lire en fait, la tradition. Donc, est-ce qu'il y a une tradition, et on sait que dans les trois monothéismes, mais y compris dans le bouddhisme aussi, d'ailleurs, pourquoi je l'enlèverais, toutes les traditions religieuses ont eu une histoire sexiste de donner accès ou pas au texte, de pouvoir le lire, à quel endroit on peut le lire, à quel endroit on peut le lire à voix haute, à quel endroit on peut le faire entendre. Et c'est très important que elle, l'histoire de sa communauté, elle commence par la dire tout haut.